Océane. Légende bretonne.
Et aujourd'hui, faisons connaissance avec une nouvelle spécialiste de notre patrimoine, de nos légendes, autrice de nombreux ouvrages, dont Contes et légendes de Brocéliande, avec Martine Tanneux, on va en parler. Femme de lettres, mais aussi co-créatrice du Centre de l'imaginaire arthurien au château de Compère en Brocéliande. Claudine Glo est avec nous aujourd'hui. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Et alors, avant d'évoquer ce livre et les histoires, nombreuses histoires qu'il contient, faisons d'abord quand même votre connaissance. Vous êtes à la base originaire de Dordogne, hein, je crois. Qu'est-ce qui vous a attiré, Claudine, dans ces légendes arthuriennes et bretonnes en particulier, au point d'en faire votre spécialité?
Alors, au départ, j'ai toujours aimé tout ce qui est contes et légendes, mais la Bretagne, je l'ai découverte vers 15 ans, une histoire de famille qui m'a amenée là. Et bien, ensuite, j'ai épousé un Breton et je me suis donc installée dans ce pays et dans sa culture. Ça faisait partie des choses qui me paraissaient moins extraordinaires, parce que chez moi, Dieu sait que la Dordogne, c'est un beau pays, on ne me fera pas dire le contraire, mais il n'y avait pas cette richesse d'un pays tout animé de ses contes, tout plein d'histoires, tout plein de traditions auxquelles on croit encore quand même un peu. Et ça, je trouvais ça fantastique. C'était juste le mot, la teneur de tous ces récits. C'était pas des contes moraux, c'était des contes merveilleux ou des contes à faire peur ou les deux. Et ça, j'ai vraiment adoré cet univers.
Et d'où vous est venu cet amour justement pour cet univers de manière générale et pour ces contes?
Eh bien écoutez, ça je ne sais pas. Il y a des choses... On a des talents dans la vie, je ne sais pas si j'en ai, mais on a aussi des goûts et des options qui ne sont pas rationnels, dont on hérite ou qu'on se crée soi-même à un moment dont on n'est pas conscient. Et moi, j'ai toujours eu ce penchant pour ce genre de récit et même pour ce genre de littérature, quoi. C'est toujours ce que j'ai cherché, là, comme on dit un peu pomposement, l'ailleurs, l'autrement ou l'autrefois, quoi, vous voyez. Ça va quand même du roman historique au roman de fantasy en passant par les contes multiples et par les films, les pièces qui touchent à tout cet autre monde, voilà, autre monde avec des majuscules, ce qui veut dire qu'il est totalement différent d'une autre, mais qu'on peut y accéder par le récit.
Alors, Contes et légendes de Brocéliande a été réédité en 2022 aux éditions Ouest France, et ils sont nombreux, ces contes existants à Brocéliande, vous vous en doutez. Comment est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez choisi, avec Marie Tanneux, je rappelle, votre co-autrice, ceux que vous alliez intégrer à cet ouvrage? Quel travail ça a représenté pour vous, ça?
Mais écoutez, c'est toujours un travail cruel, parce que nous nous sommes rendus compte avec Marie, qui était conteuse aussi, qui était travaillée avec moi, que nous avions à peu près de quoi faire de volume. Donc, il a fallu travailler au plus serré. Donc, on a essayé de trouver ce qui vraiment s'appliquait à un lieu de Brocéliande, ce qui avait un peu d'originalité par rapport à la forêt. Parce que vous savez, les contes, il y a les contes types qu'on va retrouver dans le monde entier, avec chacun son habillage. C'est ça qui donne le goût au conte aussi, la couleur locale, pour reprendre le vieux mot. Mais là, on a essayé de serrer quand même à des choses que le visiteur pouvait non pas rencontrer le malheureux, il va pas trouver les fées ou les sorcières à tous les coins de chemin, mais au moins il pouvait aller sur les lieux dont on parlait ou trouver les livres qu'on évoquait sur place. Donc on a procédé en se disant qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas une identité, un lieu n'a jamais qu'une identité. Donc Brocéliande, on a parlé de la forêt elle-même, des petits habitants de la forêt, mais c'était pas le lieu le plus riche par rapport au reste de la Bretagne, les Korrigans et compagnie. Il y a des contes, mais il y en a moins qu'ailleurs, je trouve. Par contre, il y avait en plus la légende arthurienne. Alors, la légende arthurienne, c'est de la littérature. Mais quand la littérature a 9 siècles et qu'elle s'est fondue à l'esprit d'un lieu, c'est du patrimoine comme le reste. Il ne faut pas la différencier du reste. Et puis, il y avait aussi, on a une histoire un peu étrange. C'est-à-dire que tout le Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge, il y a des récits de rois, de saints, de miracles, de faits extraordinaires qui ne sont pas franchement de l'histoire, mais qui en sont quand même un peu. Et là-dedans, il y avait aussi toute une mine. Puis, il y avait les contes du vrai folklore, quoi, ce qu'on racontait autrefois dans les fermes ou dans les veillées. Mmh. Et puis, il y avait une partie aussi qui était une demande de l'éditeur et qui nous a fait assez plaisir.
Et ça, c'est original aussi, c'est ça, parce qu'il y a ces recueils de différents récits donc, que vous avez faits. Mais qu'est-ce qu'il vous a demandé alors, votre éditeur?
Eh bien, il a eu, en discutant avec lui, on dit vraiment, Brocéliande, c'est un terreau de contes et légendes, ça n'a pas arrêté de se superposer. Et il nous a dit, mais il faut que ça continue, alors ajoutez-en à vous. Donc, on a chacune écrit, je crois, 2 ou 3 contes pour la conclusion et on a pris tout à fait à la fin un récit aussi qui est un témoignage d'un auteur du Midi qui s'appelle Frédéric Jacques Temple, à qui il est arrivé une très 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 étrange histoire à Brocéliande, je ne la raconte pas parce que quand même, ça nous a paru tout à fait bien pour conclure en disant, voyez, ça arrive encore à des gens tout à fait normaux, pas des gens qui étaient sous influence, pas des gens qui avaient bu ou fumé des trucs bizarres, non, il lui est arrivé un jour quelque chose de très troublant et il le raconte et on a conclu là-dessus.
On va laisser planer le mystère là-dessus, mais on l'a compris, voilà. Vous avez ajouté vos propres pierres donc à toutes ces légendes et alors vous avez accepté de mettre en lumière pour nous quelques-uns de ces contes et légendes de Brocéliande. On commence avec un conte populaire ancré peut-être dans le paysage des Landes de Brocéliande, la sorcière des quatre vents. Vous nous la présentez ?
Alors la sorcière des quatre vents, oui, c'est une histoire ancrée, c'est l'histoire du garçon qui s'ennuie dans son pays, qui croit toujours qu'ailleurs l'herbe est plus verte et le monde plus merveilleux, et il sait que sur les Landes il y a une sorcière qu'on craint pas mal et qui est capable de changer votre vie, d'accomplir votre vœu le plus cher. Il va la voir, elle lui demande un peu d'argent parce que quand même c'est son travail et elle lui dit attention, je vais accomplir ton vœu mais c'est un vœu sans retour. Si tu choisis ça, tu ne reviendras plus jamais. Il dit mais je déteste ce pays donc je pars. Et elle l'envoie, alors elle l'envoie dans un pays qui est merveilleux parce qu'il a à la fois le charme des paysages celtiques et le plaisir de vivre de l'Orient. Enfin c'est, voilà, il est heureux, mais il est heureux pendant quelques temps. Et comme l'ennui, c'est à l'intérieur de lui qu'il le porte. Eh bien, il va recommencer à s'ennuyer et tout d'un coup à prendre la nostalgie de sa Brocéliande natale. Et il va tout faire pour revenir. Et il va finir par trouver une sorcière, peut-être la même, peut-être une autre, qui va le renvoyer dans son pays. Mais ça ne va pas se passer tout seul.
Ah, là, on arrête parce qu'évidemment, voilà. Il va falloir découvrir tout ça en détail dans ce livre. Vous nous passionnez déjà dans cet ouvrage. Allez, on en fait un deuxième. Vous nous parlez aussi d'un animal ô combien étrange qu'on appelle le taureau bleu.
Oui, c'est très rare un taureau bleu. Alors là, il faut voir, comme dans La sorcière des quatre vents, d'ailleurs, des souvenirs de la mythologie celtique complètement atomisés, complètement redigérés par les siècles et les gens qui ont raconté. Mais ce sont des traits très intéressants parce que le conte vous relie au passé lointain et ça, c'est très beau. Donc le taureau bleu, c'est le conte à faire pleurer. Donc, c'est un taureau qui parle et qui en plus a adopté une pauvre petite fille un peu malmenée dans une ferme et il arrive à lui trouver à manger et ça peut paraître étrange mais elle trouve toujours dans ses oreilles quelque chose à manger ou à boire, grâce à quoi elle survit. Et un soir elle entend que son père et sa marâtre, sa belle-mère veulent tuer ce taureau qui ne sert plus à rien. Elle va le voir en pleurs et elle lui dit ils veulent te tuer. Il dit je sais mais cette nuit on s'en va tous les deux. Et il l'emporte toute la nuit sur son dos à travers la forêt. Et il lui dit tu montes sur mon dos mais quoi qu'il arrive tu ne bouges pas, tu ne touches à rien, essaie de dormir, mais si tu te réveilles, reste bien accroché à moi et ne fais rien de plus. Sauf que quand elle se réveille la première fois, toute la forêt est devenue de cuivre. La lune brille et c'est une folie de flambées rousses, de reflets. Et elle trouve ça tellement beau qu'elle tente de toucher une feuille. Et aussitôt, des bêtes féroces se jettent sur le taureau. Ah, il arrive à les combattre. Et par trois fois, elle va se réveiller et la forêt sera d'argent, puis la forêt sera d'or. Et la pauvre petite ne va pas pouvoir s'empêcher de toucher ou d'essayer d'attraper ou de cueillir ces feuilles merveilleuses qui sont un enchantement pour les yeux et pour l'ouïe parce que le vent passe là-dedans et ça fait une musique absolument irréelle. Et ben, le taureau va être obligé de combattre à chaque fois. Et à l'arrivée au bout de la forêt, parce qu'il traverse toute la forêt et il arrive au bout du val sans retour, et là il s'écroule épuisé. Et puis après, je ne vais pas vous faire pleurer tout de suite, mais...
Et puis, justement, votre co-autrice a aussi elle-même commis une autre légende dont les racines se situent du côté de Concoret, une légende du secret de l'étang d'Isogouette, c'est ça ?
Isogouette, c'est parfait, bravo. Vous vous appelez pas Yannick Guéguin pour rien.
Alors, qu'est-ce que c'est que cet étang secret ?
Alors, quand on part de Concoret, il y a la grande route qui mène à Pimpon, puis il y a une petite route en biais qui est extrêmement jolie, qui passe par les bois et qui passe entre autres par cet endroit de Isogouette où il y a un étang un peu profond, c'est assez sombre, c'est assez mystérieux. Et là, il y avait un château autrefois, et une châtelaine. Et l'histoire que Marie a créée autour de ce lieu, c'est en fait une fête paysanne au 19e siècle, où tout le monde est rassemblé autour du feu, il y a du cidre qui circule, peut-être un peu de lambic, hein, il faut bien survivre.
Hein. Il faut pas se refroidir, c'est ça.
Voilà, il faut pas se laisser aller. Et on demande à chacun de raconter une histoire ou quelque chose qui lui est arrivé. Puis il y a un des paysans qui est là, mais qui est absolument incapable, il dit moi je sais pas, j'ai pas parlé, j'ai pas eu d'histoire. Et tout le monde a eu une histoire. Et non, il dit non. Il s'en va, il arrive au bord des temps de l'Isogoué, il veut le traverser, il dit tiens, je vais le traverser. Il prend une barque et là tout d'un coup, il s'évanouit, il passe dans une autre dimension. Et quand il se réveille, il n'est plus du tout lui-même, il est la dame du château d'autrefois. Et là, l'histoire va continuer, mais c'est pareil, je ne veux pas dévoiler l'histoire de Marie parce qu'elle est très très belle et très nostalgique. La fin, là aussi, c'est pas à dire larmes, mais un petit peu.
Vous avez l'art du teasing, Claudine. Et ben voilà, sont ainsi nombreuses légendes qui sont recensées, parfois inventées, vous l'avez compris, dans ce très bel ouvrage « Contes et légendes de Brocéliande » par Marie Tanneux et Claudine Glot, toujours disponible aux éditions Ouest France. Merci pour votre passion. Et à bientôt, Claudine.
À bientôt.